Ah, c'est bien.
Je suis désolé de dire, c'est la jeune génération, il y a plus de respect.
Mais on est jeunes depuis longtemps.
Il y a la cloche, s'il vous plaît.
Il y a plus de respect, il n'y a plus rien. Il y a de... Quand la terre était plate, il y avait plus de respect. Pour...
Ça s'enregistre,
hein ? Oui, ça s'enregistre. On a des pièces. Alors nous avons la joie de recevoir bon vent. Olivier Bonassi, vous êtes l'auteur du fameux ouvrage Dieu, la science, l'épreuve. Et vous venez nous parler aujourd'hui des voies de l'apologétique contemporaine, notamment au travers du projet que vous cherchez à mettre en place pour remontrer à la société et dans l'opinion commune que la science ne s'oppose pas à la foi, qu'on peut la soutenir. Merci d'être présent.
Merci. Donc on dit 30 minutes et puis après des questions. Hein. C'est ça le mieux. C'est sûr, effectivement. Alors je vais vous parler de deux choses aujourd'hui. Donc la première, c'est rapidement le livre Dieu, la science, l'épreuve, effectivement, qui conclut, enfin qui est un livre, une sorte d'enquête sur la question de savoir si la thèse Dieu existe ou la thèse Dieu n'existe pas, laquelle est la plus valable, laquelle est la plus rationnelle. Et puis derrière ce livre qui pose une question qui conclut en gros que c'est extrêmement rationnel de penser que Dieu existe et la position contraire est irrationnelle. Donc on dit Dieu existe, mais la question d'après c'est qui est Dieu ? Et donc le deuxième projet dont je voudrais vous parler, il va être lancé le 1er mai avec l'association Marie de Nazareth, il s'appelle 1000 raisons de croire, et j'aimerais bien vous en parler parce qu'on a besoin de le travailler, ça va durer plusieurs années, et on va raconter qu'il y a 1000 raisons de croire en Jésus. C'est-à-dire que, la thèse de ce deuxième projet elle est assez simple, c'est que la foi chrétienne est vraie, il y a 1000 raisons d'y croire, et il n'y a rien qui peut lui être comparé. Voilà. Et donc, c'est cette démonstration, en fait, cette thèse-là qu'on va essayer de porter de manière publique pour que ça fasse de l'évangélisation, pour que ça suscite un débat. Et je pense que si jamais il y a un débat sur ce thème des raisons de croire, la foi chrétienne va dominer largement. C'est-à-dire s'il y en a d'autres qui montent sur le ring, on va s'apercevoir qu'ils sont un peu à poil, quoi. Donc c'est compliqué. Bon bref, ça c'est le deuxième projet, donc j'aimerais prendre un peu de temps avec vous pour parler de ça, parce que c'est un projet qu'il faut construire, il y a du travail. Alors on va résumer rapidement celui-là d'abord. Donc le livre « Dieu, la science, l'épreuve », c'est un peu particulier parce que le Dieu dont on parle, c'est pas le Dieu de Jésus-Christ forcément, c'est un Dieu à minima, c'est un Dieu, est-ce qu'il y a un être qui est non temporel, non spatial, non matériel, qui a eu la puissance de créer l'univers et qui est nécessaire, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y a rien d'autre que l'univers matériel ? C'est les deux thèses. Donc c'est seulement ce niveau-là de Dieu. La science, vous savez ce que c'est, hein, c'est le domaine du logos, chaque science se définit par son objet, mais c'est la cosmologie, c'est l'étude du cosmos, la biologie, l'étude du vivant, l'archéologie, l'étude de ce qui est vieux. Toujours il y a le logos, c'est la rationalité appliquée à un domaine, puis il y a la philosophie qui est la sagesse, qui fait la synthèse de tout ça. Et puis l'épreuve, c'est le mot qui a un peu plus choqué les gens, parce que le mot preuve, dans la tête de certains, ça veut dire démonstration mathématique absolue. Mais ce n'est pas le dictionnaire. Quand vous ouvrez un dictionnaire, vous ouvrez le chapitre 2 de notre livre, on définit bien ce que c'est qu'une preuve. Une preuve, c'est un élément matériel ou intellectuel que vous mobilisez dans une enquête pour attester, enfin pour renforcer une thèse et contester la thèse inverse. Et quand il y a des preuves qui s'accumulent dans un procès et qu'elles vont toujours dans le même sens, au bout d'un moment, vous dites, il y a une certitude au-delà de tout doute raisonnable et vous dites, j'en suis sûr. Voilà. Ben, c'est un peu à ça qu'on arrive. Mais j'insiste, l'acception du mot preuve, il ne faut pas réduire le mot preuve qui a peu de sens en français, à son sens le plus restreint, qui est celui de démonstration absolue dans un univers limité. Si vous êtes dans un univers où vous pouvez vous baser sur des axiomes, sur des règles ou sur des principes en nombre limité, et vous en faites à partir de là, vous pouvez faire des démonstrations absolues. Aux échecs, vous dites maths en trois coups, ça c'est totalement absolu, parce que les règles sont limitées. Et vous pouvez faire le tour de toutes les hypothèses. Mais dans le monde réel, quand vous faites dans un procès, c'est pas comme ça. Alors en fait, dans l'histoire du monde, ce qu'on raconte, c'est le schéma qui est un peu à la base de ce livre, c'est que dans l'histoire du monde, il y a eu quatre temps. Il y a eu un premier temps sur la Terre où à peu près tout le monde croyait en Dieu. Enfin, ils croyaient en Dieu, c'est rapidement dit, c'est plutôt que personne n'était athée. Pourquoi est-ce que les gens n'étaient pas athées dans les temps reculés ? Parce qu'en fait, il y a trois grandes intuitions que tous les hommes ont partagées. La première intuition, c'est quand vous voyez qu'il y a un univers qui existe autour de vous, vous vous dites naturellement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui a fait ça. C'est assez naturel. Deuxième chose, cet univers, vous voyez qu'il est ordonné, qu'il est beau, qu'il est harmonieux, et vous vous dites, bah, il y a peut-être une intelligence derrière tout ça. Et puis tous les hommes, en fait, ce qu'on appelle les hommes depuis les temps les plus reculés, c'est une espèce qui enterre ses morts. Pourquoi est-ce qu'elle enterre ses morts? Parce qu'elle pense que l'esprit n'est pas réductible à la matière, c'est quelque chose qui peut demeurer au-delà de la mort. Et donc ces trois grandes intuitions, l'existence de l'univers, son ordre et l'esprit, font qu'à peu près tout le monde croyait en des forces spirituelles qui étaient à l'origine de l'univers. Les athées n'existaient pas. Ensuite, il y a les philosophes qui sont venus, donc Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, Leibniz, tout ce que vous voulez, qui ont formalisé ces preuves en des raisonnements philosophiques plus serrés, qui sont les preuves dont parlait le Père dans l'homélie. Et puis, il y a eu la révélation judéo-chrétienne qui a amené un lot de preuves considérables avec toute l'histoire du peuple juif, la Bible, Jésus, puis des milliers de miracles, des milliers de saints, des milliers d'apparitions, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu. Et puis, donc ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui fait qu'il y a il y a 5 siècles, il y a 10 siècles, il y a 15 siècles dans ce pays, tout le monde à peu près croyait en Dieu. Pas tout le monde, mais globalement. Et puis à un moment, ce qui s'est passé, ça c'est temps numéro 1, la balance penchait complètement dans un sens. Puis temps numéro 2, il y a ce qu'on appelle les grandes découvertes scientifiques. Alors, la science n'est pas née avec Galilée ou Copernic, elle est née au Moyen-Âge dans le contexte chrétien, c'est très important, ça c'est un de mes dadas, c'est la science moderne, elle est née par l'Église. Donc cette idée qu'il y a un conflit entre la science et l'Église, elle est absurdissime. Donc, après, il y a eu de la science dans l'Antiquité, bien sûr, chez les Grecs, chez tout ce que vous voulez, les Chinois, les Arabes, tout ce que vous voulez, mais après, il y a la période barbare, c'est dans le monde chrétien qui démythifie le monde, qui crée les universités et qui accumule les techniques et le savoir. C'est dans ce monde-là, uniquement, que se crée la science. Ce qui fait que quand Christophe Colomb, Magellan et Vasco de Gama partent faire le tour du monde, ils s'aperçoivent que au 16e siècle, enfin, fin 15e, début 16e, ils s'aperçoivent que l'Occident a une avance considérable sur le reste du monde. C'est pas, donc on est avant Galilée. Et alors, les grandes découvertes, pourquoi elles sont importantes? Parce qu'elles vont avoir trois effets. Premièrement, elles vont perturber les gens, c'est-à-dire que tout à coup on leur dit que c'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, c'est le Soleil, ou que la Terre a un âge beaucoup plus grand que ce qui est marqué dans la Bible, ou que l'évolution, tout ça. Donc les gens sont perturbés. Deuxièmement, la science se met à répondre à des questions auxquelles on pensait qu'il n'y avait jamais de réponse, et où on ne pourrait jamais répondre. La science répond à plus en plus de questions, on se dit peut-être qu'elle va répondre à toutes les questions. Et puis elle n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Vous savez, c'est la place devant Napoléon, il lui expose son système du monde. Napoléon lui dit, mais je ne comprends pas, Newton avait parlé de Dieu, vous n'en parlez pas. Et bien, il dit, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc la science perturbe les gens, répond à des tas de questions, le fait sans Dieu, et ça a provoqué un courant scientiste et matérialiste extrêmement puissant, qui a dominé au 19e et 20e siècle. Mais il y a un changement, c'est-à-dire que ce qui se passe, donc toutes ces découvertes vont dans un certain sens, et puis à un moment, au tournant des 19e et 20e siècle, là, à ce moment-là, la science est persuadée qu'elle est presque au bout de la connaissance. Il y a des déclarations incroyables de Kelvin, de Bohr ou de Berthelot qui disent, là, dans quelques années, c'est terminé la science, arrêtez de faire de la science, vous allez être au chômage. Et donc, on a mis en équation tous les secrets du ciel et de la terre. Et en fait, derrière ça, il y a 6 ou 7 révolutions fantastiques qui vont complètement rebattre les cartes. Donc la thermodynamique, la mécanique quantique, la découverte de la relativité, la découverte de la naissance de la cosmologie, la découverte de l'expansion de l'univers, la découverte du Big Bang, la découverte de la complexité en biologie et la découverte de tous les réglages fins de l'univers, ça change complètement la donne. En gros, ça aboutit à 2 conclusions. C'est que, très vraisemblablement, pour des raisons variées, on peut conclure qu'un temps infini dans le passé, c'est pas possible. Et donc la thermodynamique contredit ça, que le schéma du Big Bang le contredit aussi, mais il y a des théorèmes de cosmologie qui contredisent aussi complètement l'idée qu'il peut y avoir, que s'il y avait des Big Bang avant le Big Bang, il n'y en a pas en nombre infini. Et donc l'idée d'un temps infini dans le passé, qui était celle qui était à peu près de tous les grands savants du temps d'Einstein, il y a 150 ans, à peine 100 ans même, cette idée-là, en fait aujourd'hui, elle est très très dure à tenir. Et donc, s'il y a eu un début, ça change tout, parce que s'il y a un début absolu à l'univers, alors ça veut dire que, et Einstein nous a montré que le temps, l'espace et la matière étaient liés. Qu'on peut, dans le monde réel, ce qu'on appelle l'espace-temps, on ne peut pas concevoir cet espace-temps sans... Par exemple, Kant s'est bourré là-dessus, il pensait qu'il y avait un temps vide avant la création de la matière. Donc c'est le monde tel que le décrit Einstein à travers la relativité, c'est des équations qui ont été vérifiées, où tout le monde est d'accord aujourd'hui. Le temps, l'espace et la matière sont liés, ils ne peuvent pas exister l'un sans les deux autres, dans le monde réel. Et donc, s'ils émergent à un moment, s'il y a une émergence du temps, de l'espace et de la matière qui sont liés, ça veut dire que la cause qui est à l'origine de cette émergence, elle est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, et il a eu la puissance de créer tout ce qui existe, et en plus elle a tout réglé pour que les atomes soient stables, que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années, ce qui est totalement improbable, et que la vie complexe puisse se développer, toute chose dont on sait aujourd'hui que c'est dû à des réglages absolument fous. Voilà, on a une liste de réglages complètement dingue, on en découvre chaque année, et donc si jamais les lois, les données initiales de l'univers et les lois de la physique et de la biologie n'étaient pas exactement ce qu'elles sont, si vous changez un tout petit peu les paramètres, tout se détraque et il n'y a plus d'atomes, ou il n'y a plus de vie, ou il n'y a plus rien. Voilà. Ça aujourd'hui tout le monde est d'accord. Donc ça pose deux énormes problèmes aux athées, si vous voulez. Le problème du début et le problème du réglage. Et à chaque fois, ça les oblige à des contorsions incroyables, parce que si vous regardez simplement le problème du début, le raisonnement est binaire. Enfin, c'est pas binaire, mais il est en deux temps. Premièrement, il y a un début au temps, à l'espace et à la matière. Deuxièmement, il y a une cause qui est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Si vous voulez rester athée, vous devez contester un de ces deux points. C'est très compliqué. Il y a un grand athée qui s'appelle Stephen Hawking, il dit « Ok, il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, mais... l'univers a pu se créer tout seul, sans Dieu, à partir de rien, à cause de la force de gravité. » Il y a un gars qui a écrit, on a fait une version collector avec des gens qui nous soutiennent, là, je vous laisserai ça pour votre bibliothèque. Il y a John Lennox, qui est un grand savant anglais, qui lui a répondu « Une absurdité reste une absurdité, même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu. » Donc, en fait, vous avez les gens qui sont obligés de tenir des positions incroyables, enfin, très très bizarres, pour pouvoir garder un raisonnement athée sur la question du début, qui est une question très forte pour un caillou dans la chaussure. Et puis il y en a un deuxième, c'est le réglage. Parce que si jamais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un réglage. Donc l'explication la plus naturelle, s'il y a un réglage, c'est qu'il y a quelqu'un ou une intelligence qui a réglé. C'est ce que dit le livre de la Bible. Il dit par exemple que Dieu est un artisan qui a tout réglé avec mesure, nombre et poids. C'est aussi ce que dit Einstein. Einstein dit « Toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent infiniment plus grand que celui de l'homme, se manifeste dans les lois de l'univers. » Donc ça, c'est la position croyante, en quelque sorte. Mais si vous refusez cette idée qu'il y a un Dieu croyant, qu'il y a un Dieu derrière tout ça, vous devez dire que c'est le hasard qui a fait tout ça. Et pour que ces réglages existent, vous êtes dans un univers qui a eu de la chance, il y a eu un tirage gigantesque, en science, en théorie des corps, dit 10 puissance 500 univers. Mais 10 puissance 500 univers, c'est un chiffre délirant. C'est bon, bref. Il n'y a pas que le fait que le chiffre soit délirant, parce que, pour vous rendre compte ce que c'est 10 puissance 500, si vous devez compter jusqu'à 10 puissance 27 en prononçant un chiffre chaque seconde, il vous faut 2 milliards de fois la durée de l'univers. Vous voyez, c'est un chiffre très très grand. Là, on est qu'à 10 puissance 27. Le nombre de particules qui existent dans notre univers, c'est 10 puissance 80. Donc les gars, en ce moment, ils sont en train d'imaginer qu'il existe en vrai 10 puissance 500 univers, créés par un processus naturel, c'est-à-dire une machine à créer des univers. Si vous êtes athée, vous êtes obligé de croire ça, attention. Donc, il y a une machine à créer des univers dans un nombre absolument dingue, et cette machine, elle change les constantes, comme ça, on ne sait pas pourquoi ni comment. Mais il y a un deuxième problème, c'est que la machine à créer des univers, il faut qu'elle soit bien réglée. Parce que si elle choisit la constante de gravité, qui vaut 6,67, et à 6,69, on n'est plus là pour en parler, donc, si jamais elle doit la choisir dans une fourchette très très bien, très précise, si elle choisit entre 0 et l'infini, la chance de tomber sur cette fourchette, elle est égale à 0. Donc il faut qu'elle choisisse dans une bonne frange, et cette frange, si vous choisissez entre 10 et 20, vous ne trouverez jamais 6,67. Donc il faut choisir dans une bonne frange qui a réglé la machine. Donc, et puis en plus, il y a la question de la beauté qui est une improbabilité à l'intérieur des improbabilités. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que la science s'est retournée, c'est-à-dire que quand vous regardez le dossier simplement sous l'angle de la science, ça penche du côté de Dieu, et c'est les athées qui doivent pédaler très fort pour essayer de trouver des solutions un peu abracadabrantesques pour s'en sortir. Et puis, il n'y a pas que la science, il y a plein d'autres preuves. Donc, on a parlé des preuves philosophiques, et c'est là qu'on arrive au deuxième sujet, qui est, dans ce livre, on a une partie sur la science qui est la plus grosse, parce que c'est important de montrer que la science a changé de camp, qu'elle semblait plaider dans un certain sens, mais un peu de science éloigne de Dieu, mais maintenant beaucoup y ramènent, comme dit l'adage. Et on a une autre partie sur les preuves hors science. Alors dans le livre, on le traite très modestement, on ne prend que 4 ou 5 exemples. On prend l'exemple de la Bible. La Bible, c'est un livre assez amusant parce que c'est écrit par les Hébreux. Les Hébreux, c'est des bergers. Et ils sont entourés de grands empires comme les Égyptiens, les Grecs, les Macédoniens, les Mésopotamiens ou l'Égypte, tout ça. Et ces grands empires, ils ont tous des savants, des astronomes, des bibliothèques, ils ont une vie intellectuelle intense. Les Hébreux, ils n'ont rien de tout ça. C'est des bergers, une famille, Abraham, Isaac, Jacob, qui grandit, et ils n'ont pas de vie intellectuelle intense. Par contre, à un moment, ils vont provoquer tous les empires à côté en disant, voilà, notre livre n'est pas un livre de science, n'est pas un livre d'histoire ou un livre de philosophie, mais c'est un livre qui, dans notre relation à Dieu, Dieu nous a expliqué qu'au ciel, il n'y a pas 50 000 dieux qui se battent entre eux, qui ont des têtes de chameaux et qui ont des histoires pas possibles. Il y a un seul Dieu, il est transcendant, il a tout créé, l'univers a eu un début, il aura une fin, et il s'use entre-temps. Les Hébreux, ils disent aussi, tous les autres peuples à l'époque pensent que parmi les hommes, il y a des sous-hommes, des sur-hommes, que le pharaon est peut-être un dieu ou un demi-dieu, l'empereur de Rome aussi. Les Hébreux disent, non, tout ça c'est pas vrai, tous les hommes sont au même niveau, fils d'Adam. Et puis, tous les peuples de l'époque pensent que ce qui fait bouger la mer, c'est Poséidon, c'est les Zeus qui envoient les éclairs, ou qu'il y a des forces, des génies dans la nature qui fait bouger tout ça. Les Hébreux disent non, ça c'est de l'idolâtrie, dans la nature, il n'y a que la nature. Et tous les peuples de l'époque, sans aucune exception, pensent que le soleil et la lune sont éternels, et qu'ils ont toujours été là, et qu'ils sont des dieux, ils ont donné des noms. On a un tableau dans le livre. Et les Hébreux disent non, c'est juste des luminaires, c'est pour éclairer. Alors, sur un certain nombre, sans que ce soit un livre de science, la Bible n'est pas un livre qui est là pour vous expliquer la science, mais pour purifier la relation à Dieu, pour qu'on ait une vraie relation à Dieu, il fallait que la Bible purifie notre rapport à Dieu, au prochain et à la nature. Et en faisant ça, en passant, il y a eu des données qui ont été révélées qui concernent le monde réel. Et on s'aperçoit que ces données, elles sont justes. 2000 ans après, c'est les Hébreux qui passaient pour des rigolos à l'époque, ils ont tout juste. Alors comment vous expliquez ça? Hypothèse A, Dieu existe, ça devient cohérent, ou même si c'est compliqué à croire, mais en tout cas c'est cohérent. Et hypothèse B, Dieu n'existe pas, ça défie beaucoup de lois. C'est très compliqué, il faut que les Hébreux aient beaucoup de chance en série sur des trucs complètement contre-intuitifs. Pareil sur l'existence du peuple hébreu. L'existence du peuple hébreu, il y a 3500 ans, les Hébreux vous disent « On est un peuple élu, on est un peuple éternel, Dieu nous a choisis. » Et 3500 ans après, les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, tout ça, ils ont disparu. Les Gaulois, les Romains, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même terre, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même langue. Et le seul peuple qui reste, c'est celui qui a pas forcément le mieux armé, ni l'histoire la plus simple pour y arriver. Le seul peuple qui reste de l'Antiquité, c'est le peuple hébreu. Donc comment vous expliquez ça? Hypothèse A, Dieu existe, ça devient cohérent. Hypothèse B, Dieu n'existe pas, c'est compliqué. Pareil, on prend un autre exemple sur Jésus. Jésus, c'est un charpentier qui sort de Nazareth, qui parle pendant 3 ans et après il meurt. Cette histoire-là, elle a zéro chance de marquer l'histoire de l'humanité. Or, aujourd'hui, l'homme qui a de très loin le plus marqué l'histoire de l'humanité, évidemment, c'est Jésus. Il a coupé l'histoire en deux, d'un bout à l'autre de la Terre. On se réfère à sa date de naissance pour tout. Et il a eu une influence considérable. Comment vous expliquez ça? Lui, il a dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Mais il n'a rien écrit. Il n'a jamais pris une épée. Il n'a rien conquis. Il n'a pas fait de découverte en science. Il n'a rien fait pour les lois de la cité. Il n'a pas fait rien en architecture, dans l'art, rien du tout. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a parlé. Et en fait, effectivement, 2000 ans après, c'est le best-seller de tous les temps et tout. Comment vous expliquez ça? Si cet homme n'a aucun rapport avec Dieu, s'il a un rapport avec Dieu, ça devient facile. Enfin, en tout cas, c'est cohérent. S'il n'a pas de rapport, voilà. Et puis, on prend un dernier exemple là-dessus. C'est le miracle de Fatima qui est intéressant parce que ça se passe dans la période contre. On prend un seul miracle dans ce livre, juste pour montrer qu'il y a des choses qui sont... parce que si Dieu n'existe pas, les miracles sont impossibles. Inversement, s'il y a des miracles à tester, ça veut dire que la thèse « Dieu n'existe pas » est fausse, donc c'est l'autre thèse qui est valable. Donc, on a choisi le miracle de Fatima parce qu'il se passe dans un pays complètement anticlérical, et le gouvernement est franc-maçon, il a expulsé toutes les congrégations d'église, et dans ce pays, tous les journaux sont tenus par les anticléricaux, et dans ce pays, il y a 3 enfants de 10 ans, un peu moins pour certains, qui disent à un moment qu'ils voient la Vierge Marie tous les 13 du mois. Et le 13 mai, 13 juin et 13 juillet, elle dit « Dans 3 mois, je donnerai un miracle pour que tous puissent croire. » Et le bruit se répand partout, et le jour venu, il y a une foule immense qui est à Fatima, avec des croyants, des non-croyants, un photographe, des journalistes et tout ça. Et effectivement, il y aura à l'heure et au jour prévu un miracle comme jamais on a vu dans l'histoire de l'humanité, enfin en tout cas dans l'histoire récente. Et donc on dit aux gens « voilà, c'est une anomalie ». Comment est-ce qu'on explique ça? Il y a plusieurs hypothèses, soit il ne s'est rien passé, soit c'est un phénomène météorologique, un phénomène cosmique, une supercherie, une illusion, enfin on examine tous les cas, et on s'aperçoit que, comme le font tous les commentateurs, que depuis 105 ans, jamais personne n'a trouvé une explication rationnelle à ce truc-là. Donc, en gros, ce miracle, qui est aussi une apparition et une prophétie, c'est quelque chose qui pose question, et il y en a 1000 autres, voilà. Donc, dans ce livre, on parle aussi du bien et du mal, on parle aussi de Gödel et d'un certain nombre de choses, mais on a pris 12 domaines indépendants, Et à chaque fois qu'on ouvre un dossier, la conclusion la plus, c'est le lecteur qui est le jury, hein, chacun choisit comme il veut. Mais pour nous, quand on ouvre ces dossiers, la conclusion la plus rationnelle, c'est de dire que l'hypothèse Dieu existe est beaucoup plus une meilleure explication du monde réel que l'hypothèse Dieu n'existe pas. Et comme c'est sur plein de domaines indépendants, à la fin, ça nous paraît très convaincant. Voilà, donc ce livre, en deux mots, la thèse, c'est l'existence de Dieu. C'est une thèse que classique, hein, l'Église catholique affirme ça. Hein, l'Église catholique affirme que par la lumière naturelle de la raison, on peut arriver à la certitude de l'existence de Dieu sans la foi. C'est-à-dire que c'est à partir de la rationalité, sans mobiliser la foi. La foi, c'est autre chose. La foi, c'est un acte d'adhésion et de confiance qui implique la volonté libre. Mais là, on ne parle pas dans ce livre du tout de la foi, on parle juste de connaissance, le niveau de la connaissance, avec la raison naturelle. On peut arriver en cherchant, parce que les preuves ne sont pas, c'est pas des évidences, comme si Dieu vous apparaissait dans votre chambre à coucher tous les matins. Il faut chercher un peu, mais quand on cherche, on trouve. Voilà. Donc, la thèse, et on l'a défendue, allez voir sur notre site dieu-la-science-épreuve.com, vous verrez tous les débats qu'on a eu avec les uns les autres. Globalement, ça tient la route, et nous, on n'a rien inventé. Hein, dans ce livre, il n'y a pas un seul truc qu'on a inventé, on a juste collecté des choses qui sont très connues, qui sont encore plus connues aux États-Unis qu'en Europe, mais qui sont de plus en plus fortes. C'est pour ça que nous, dans notre schéma, on pense qu'il y a quatre temps. Donc il y a un temps tout le monde croyait en Dieu, un temps où il y a une remise en question de Dieu. Là, en ce moment, c'est le mouvement inverse qui s'observe. Et on pense qu'il va y avoir un quatrième temps, c'est pour ça qu'on appelle ça l'aube d'une révolution. C'est qu'on pense que, assez naturellement, les découvertes très fortes de la science qui ont des implications, elles vont conduire à un quatrième moment qui sera un peu un retour de Dieu, quoi, comme ça se passe aux États-Unis ou dans des endroits qui voient plus clair que nous pour l'instant. Alors, ça c'est, je redis, voilà, la conclusion c'est Dieu existe selon toute probabilité. Et la question d'après, c'est qui est ce Dieu ? Parce que je vous laisserai ce livre. Vous verrez que dans la première partie, on a mis des gens qui nous ont dit des choses sympas. Il y a des scientifiques, mais il y a aussi des catholiques, des évangéliques, des juifs, des musulmans. Il y a même un franc-maçon qui dit des choses très sympas sur nous. Donc tout le monde est d'accord, enfin tous ces gens-là en tout cas sont d'accord pour dire Dieu existe. Mais maintenant, la question d'après, c'est qui est Dieu ? Et c'est une question qui est assez importante parce qu'elle n'est pas seulement intellectuelle. Dans notre monde aujourd'hui, si vous regardez la France, le monde c'est un peu différent. Mais si vous regardez ce qui se passe en France, vous verrez que toutes les courbes qui sont liées au christianisme et au catholicisme en particulier se cassent la figure. C'est-à-dire que tout va comme ça. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui croient en Dieu, le nombre de personnes qui se disent catholiques, le nombre de personnes qui vont à la messe, le nombre de prêtres, le nombre de séminaristes, le nombre d'ordinations, le nombre de baptisés, le nombre de mariages, tout ça, c'est des courbes qui font comme ça, c'est impressionnant. Je vous enverrai un PowerPoint si vous voulez. À l'inverse, vous avez d'autres mouvements. Il y a des non-croyances, et l'incroyance, elle fait un peu comme ça, pas très fort, mais un peu. Les musulmans sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont une dynamique à la fois démographique, une dynamique missionnaire, il y a des tas de gens de Gaulois et de catholiques ou de chrétiens qui se convertissent à l'islam en masse, et donc l'islam progresse beaucoup, et puis il n'y a pas que l'islam qui progresse, il y a aussi tous les New Age et machin comme ça. Bon. Alors, si on prolonge un peu les courbes, qu'est-ce qui va se passer ? Malheureusement, ça sent mauvais, quoi. C'est-à-dire que le pays est en danger quand même, enfin, là, la vision classique du... Et puis, pas le pays seulement, la foi. Et c'est très paradoxal, parce que cette situation où le christianisme... dans notre pays, parce que dans le monde, c'est pas vrai, encore une fois, dans le monde, il y a une croissance du christianisme partout, mais dans notre pays, le christianisme s'écroule alors qu'il n'y a jamais eu autant de raisons de croire en Jésus. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que la science, c'est une toute petite partie des raisons, mais il y a mille raisons de croire au Christ, et c'est ça qu'on veut montrer maintenant. C'est-à-dire, on lance le 1er mai un email quotidien, tous les jours, il va y avoir, sauf le dimanche, il y aura un email qui donnera une raison de croire en Jésus. Quelles sont ces raisons de croire ? Ce sera des raisons qui seront liées à Jésus lui-même, à Marie, à l'Église, à la Bible, mais aussi des raisons qui seront liées aux saints, aux martyrs, aux apôtres, aux moines, aux docteurs, aux visionnaires, aux mystiques, à tout ce que vous voulez, mais aussi à la civilisation chrétienne, à sa spiritualité, à la vague de charité incroyable qui a parcouru le monde depuis que le Christ a donné son message, qui seront liées aussi à tous les miracles, les apparitions, les saints, toutes les expériences de rencontre avec Dieu, toutes les histoires providentielles qu'on peut trouver à droite à gauche, tout ça on va le collecter Et quand on le met bout à bout, c'est, je vous assure, c'est hyper impressionnant. Moi, je fais ça depuis 3 mois. C'est hyper impressionnant. Et il y a, Dieu a fait des merveilles, en fait. Vous savez, on dit dans la Bible qu'il faut proclamer les merveilles de Dieu. Mais Dieu a fait des merveilles. Il a fait... Il n'y a pas un seul saint, il y a 2000 saints. Il n'y a pas une seule apparition de la Vierge. Il y a 2000 apparitions de la Vierge dans le dictionnaire des apparitions du Père Laurentin et de Sbalchiero. Il n'y a pas une guérison par-ci, par-là. Rien qu'à Lourdes, il y en a 7000 qui sont attestés par la science, par un comité scientifique très sérieux. Mais en fait, tout ça, il y a plein de choses, mais les gens ne le savent pas. Et donc, il y a un problème de communication, et c'est pour ça qu'on a une démarche de communicant. On veut, premièrement, on balance à partir du mois de mai, ça va commencer doucement, hein, c'est à partir du mois de mai, un email par jour, et on veut qu'il soit les mieux faits possible pour que ça soit convaincant, et qu'à la fin, il y a une cathédrale qui se met en place. On sort en même temps le site internet sur lequel seront répertoriés tous ces miracles, tous ces raisons de croire. On va sortir après, on va faire des vidéos en lien avec ces publications. On va faire ensuite un petit livret de 16 pages, un petit truc très, très, très ramassé qui racontera, qui dira les choses et qui renverra vers le site internet et la newsletter, et qu'on va essayer de distribuer à 1 million d'exemplaires. On essaiera de distribuer ça dans les marchés, dans les métros, dans les rassemblements. On va essayer de mobiliser des gens pour pouvoir faire ce travail de communication. Derrière ça, on va créer une web TV. Ensuite, on va créer un livre qui sera un peu comme celui-là, et qui sera le livre qui m'a mis de raison de croire, et qu'on soutiendra par une campagne de publicité. On fera aussi... il y a toute une série d'actions. On va essayer de créer un lieu dans Paris pour un lieu pour les 1000 raisons de croire. Il y aura en tête de gondole le linceul de Turin, et puis les spectacles de Marie de Nazareth qu'on a fait pour Nazareth qui seront dedans aussi. Voilà, on va essayer d'avoir plein d'actions, et on va essayer de pilonner pendant 5 ans sur ce thème. La foi chrétienne est vraie, il y a 1000 raisons d'y croire, et rien ne peut lui être comparé. Et je pense que c'est une action assez importante, parce que les papes dénoncent un truc, ils appellent le grande dénonciation de notre époque, de tous les derniers papes, c'est ce qu'on appelle le relativisme. C'est quoi le relativisme? Ça veut dire que sur la table, vous avez les chrétiens, mais vous avez aussi les juifs, les bouddhistes, les musulmans, les scientologues, la New Age, les non-croyants, les machins, et tout. Il y a une foultitude de trucs. Pourquoi les gens choisiraient l'un plutôt que l'autre? Si on ne leur donne pas des raisons de croire, il n'y a aucune raison que les gens croient, vous voyez. Moi, je vois ça avec mes enfants. Mes enfants, ils ont eu la chance d'être baignés dans l'apologétique depuis le début. Ils sont tous croyants, grâce à Dieu aussi. Mais quand leurs copains viennent à la maison et qu'ils entendent parler de ça, ils font des découvertes. Ils pensent, personne ne... qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu ou qu'il y a des raisons de croire rationnelles, les gens tombent du 7e étage en entendant parler de ça. Et pourtant, c'est essentiel. Parce que le fidéisme, vous savez ce que c'est le fidéisme? C'est une hérésie qui consiste à dire que la foi, on la reçoit de Dieu, mais il n'y a pas de raison particulière d'y croire. Alors ça, c'est très embêtant, parce que si toi, tu dis « je suis catholique », moi, je te dis « je suis bouddhiste », tu n'as plus rien à me dire. Parce que toi, tu es avec Dieu, moi, je suis avec Dieu, on ne nous dit pas la même chose, bon, il n'y a pas de terrain de jeu. Alors en fait, ce n'est pas vrai. Il y a un terrain de jeu, c'est le logos. Entre nous, le logos, c'est la rationalité, c'est ce qui permet le dialogue. Ce qui permet aux gens de pouvoir dialoguer, certains ont raison, certains ont tort. Et donc voilà, il faut mettre sur la table quelles sont les raisons de croire au christianisme. En fait, il y en a beaucoup, personne ne le sait, c'est pour ça qu'on veut faire cet effort. Et c'est pour ça que je fais un peu de recrutement. Si certains d'entre vous, après les mémoires et tous ces machins, parce que bon, si vous avez des mémoires, faites-les, mais après, notre projet, il va durer plusieurs années. Donc vous n'êtes pas obligé de... Mais par contre, on cherche des têtes bien faites, des gens qui ont des idées, pour rendre ces raisons de croire les plus pertinentes possibles. Vous voyez ? Voilà, j'ai fait une demi-heure à peu près.
Merci Olivier.
Voilà. Merci. Ça. Donc, si vous avez des questions...
Voilà, n'hésitez pas à poser... Moi, je connais Olivier depuis quelques années. Je suis émerveillé de son énergie, de tout ce qu'il fait. Vous pouvez lui poser des questions. Alors, s'il veut bien, même un petit peu personnel, hein, voilà, mais aussi de son parcours, hein, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans ces grandes histoires, qu'est-ce qu'il veut faire, il l'a déjà un petit peu expliqué, mais à quel titre vous pourriez l'aider, voilà, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez.
Alors, peut-être pour dire rapidement mon parcours, quand j'avais votre âge, moi j'étais pas croyant. Mon père était protestant, ma mère était catholique, mais au début de leur mariage, ils se sont battus sur le sujet, puis après ils ont failli devenir témoins de Jéhovah, et après ils ont tout mis de côté. On ne parlait jamais de Dieu à la maison. Moi, j'étais baptisé réformé, ma sœur aussi, mes deux autres frères n'ont pas été baptisés. Et puis, l'ambiance, c'était à la maison quand même les catholiques, c'était quand même ceux qui avaient brûlé nos ancêtres. Donc on les aimait pas. Mon père était pied noir, il a la guerre d'Algérie, il a mal vécu le positionnement des catholiques et tout ça, donc globalement on n'aimait pas les catholiques. Et à un moment, moi j'étais pas du tout croyant, enfin je pensais juste, j'étais pas non plus un athée militant, mais je croyais que c'était pas vrai, enfin je pensais que c'était pas rationnel. Et à ce moment-là, je pensais que dans la vie, le but c'était de gagner de l'argent, de s'amuser, de réussir et tout ça. Donc je voulais faire l'IX, l'ENA, l'inspection des finances, faire de la politique, bon. Et donc j'ai bien travaillé et tout ça. Et puis quand j'étais à l'IX, un peu par hasard, j'ai monté un truc qui existe encore, qui s'appelle le Journal des Grandes Écoles. Et on faisait, pour tout vous dire, on faisait au centre, il y avait l'agenda étudiant, toutes les bêtises qu'on pouvait faire quand on était étudiant à Paris, dans toutes les soirées, les machins, les trucs. Et on trouvait ça très drôle. Et puis on faisait des journaux, on se payait avec la bête, il y avait des pubs qui coûtaient assez cher parce que les entreprises voulaient recruter des jeunes diplômés, donc on avait pas mal d'argent. On allait faire les photos de jeunes filles sur les plages à l'autre bout du monde pour faire les couvertures. Je trouvais ça très drôle à l'époque. Et un jour, j'étais dans un grand hôtel en Martinique.
Comme quoi, Polytechnique, c'est un peu différent. C'est un peu différent.
Un jour, j'étais dans un grand hôtel en Martinique et j'étais sur mon lit et je me disais, t'as un truc qui va pas, il fait beau, tu t'amuses, t'as de l'argent, t'as tout ce que tu voulais en prépa un peu qui vient, mais t'es pas heureux. Et je suis rentré à Paris en me disant, mais finalement, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi ça sert tout ça, quel est le but de la vie, d'où on vient, où on va, c'était les grandes questions, mais j'étais assez persuadé qu'il n'y avait pas de réponse, parce que je me disais, s'il y avait des réponses, tout le monde les aurait trouvées, c'est facile. Et, mais j'ai cherché sans chercher, quoi. Et puis, dans un coin de ma famille, il y avait des catholiques, et il y en a un qui m'a donné un bouquin qui s'appelait « Y a-t-il une vérité ?» d'un normalien qui s'appelait Jean Daujard, qui était assez brillant. Et donc j'ai pris ce bouquin en me disant, comme je disais tout à l'heure, je me suis dit, je vais trouver la faille en 5 minutes. Donc je commence à regarder le bouquin, il argumentait avec des raisons rationnelles, était assez thomiste. Et puis je regarde, et puis je ne trouve pas la faille tout de suite, puis au bout d'un mois, deux mois, puis deux ans, je ne trouve toujours pas. Et puis à un moment, je me dis, en fait, c'est vachement solide ce truc. Et je me dis, il y a un truc que j'ai loupé, il faut que j'aille faire de la théologie. Donc, je suis allé voir l'IX, je leur ai dit, il faut que je change mon école d'appli, il faut que je fasse un doctorat sur la doctrine sociale de l'Église et que je fasse la théologie. Et ils m'ont dit, ok. C'est la première fois qu'il y avait un doctorat sur l'Église à l'IX. En tout cas, je suis pas allé au bout, donc c'est pas grave. Mais donc j'ai été ça. Et quand j'ai fait ça, mon père, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire des études, parce que dans le cursus, il fallait que je fasse 4 ans à l'Institut catholique de Paris. Quand j'ai dit ça à mon père, il devenait fou, quoi. Il s'engueulait tous les week-ends. Et alors, ça devenait un peu pesant à la maison. Et à un moment, je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que tu veux venir à Medjugorje ? Alors mon père a dit oui. Il a dit oui pour venir voir Medjugorje. Il trouvait ça marrant parce qu'il y avait eu la guerre juste avant. Et il aimait bien Jean-Paul II quand même, je ne sais pas pourquoi. Et donc, bref, je l'ai amené à Medjugorje. Il est rentré de Medjugorje en priant le chapelet. Un truc de fou. Jamais je pensais voir ça de ma vie. Et comme mon père s'est converti, ma mère est redevenue catholique. Ma sœur, qui était protestante, elle s'est mariée avec un protestant, mais à l'église catholique après avoir fait sa confirmation catholique. Mes deux autres frères se sont fait baptiser adolescents, et le dernier est devenu prêtre. Et les cousins se sont fait baptiser aussi. Et c'est Dieu qui a fait irruption dans la famille. Et honnêtement, ça a changé l'ambiance. Je peux vous dire, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, ben, tout le monde est croyant, et c'est vachement bien. Et tout, ouais, bon. Donc, et moi, personnellement, quand j'étais pas croyant, c'est pas que j'avais peur de la mort, mais je me disais, c'est un truc bizarre quand même. Un jour, je vais me retrouver, ça va s'arrêter, c'est quand même un truc bizarre. Ça me rendait pas nerveux, mais c'était quand même une préoccupation. Et quand j'ai compris, après je me suis engagé dans des projets d'église, on a fait les Vierges Pèlerines, le Centre de Nazareth, Aletheia, on a lancé pas mal de trucs, et j'ai rencontré des tas de gens incroyables, j'ai vu des gens vraiment de foi, et donc à un moment je disais à ma femme, on ne peut plus douter une minute avec tout ce qu'on a vu, et en fait ça donne une sorte de joie de savoir que la vie qui passe sur la terre, qu'elle soit courte, longue, douloureuse ou pas, de toute manière c'est juste un apéritif par rapport à la vraie vie qui vient après. Quand on sait ça et qu'on en est sûr, parce qu'il y a des tas de raisons d'y croire, honnêtement, ça change vraiment la perspective. Donc, je vois ce monde qui est assez déprimé, des tas de gens qui ne savent plus où est le nord, où est le sud, ils ont une société où on consomme des antidépresseurs, on se suicide, on est paumé et tout ça. Alors que nous, on sait, on peut montrer qu'il y a des raisons de croire à des choses très très belles. On ne fait pas ça pour se faire plaisir, on ne fait pas ça pour se raconter des histoires. Il y a des raisons valables d'y croire. Et donc ça, il faut le dire aux gens. Moi, je me suis dit, c'est un truc à faire, quoi. C'est un bon service à leur rendre. Voilà. Et je pense que pour notre pays, non seulement c'est bien pour les gens, c'est bien pour l'Église d'annoncer l'Évangile, c'est bien aussi pour la paix civile, parce que je pense, moi je connais très très bien l'islam et je connais très très bien le type de fonctionnement de l'islam. Je peux vous dire que les mêmes personnes à Nazareth, parce que Nazareth était une ville entièrement, je suis allé 78 fois en Terre Sainte pour faire le centre de Nazareth et d'autres choses, les habitants de Nazareth, Nazareth était une ville chrétienne il y a 20 ans ou 30 ans, s'il y avait 30 000 chrétiens, 10 000 musulmans, ça se passait très très bien, une ville paisible et tout. Et puis les musulmans sont arrivés, les habitants de Nazareth m'ont dit « very nice people, very nice, very nice ». Puis son copain est arrivé « very nice, very nice ». Et puis à un moment ils étaient 40% et puis 50% et puis 60% et les mêmes personnes qui étaient de bonne volonté, simplement ils trouvaient normal maintenant de vivre selon les règles du Coran. Et donc ça a mis un bazar pas possible dans Nazareth, maintenant tous les chrétiens s'en vont. Et donc c'est pas que les musulmans individuellement sont méchants ou quoi que ce soit, c'est simplement que quand cette doctrine prend de la place, ça crée des problèmes inextricables. Et si vous poursuivez les courbes, en France, ça va se passer comme ça. Enfin, la démographie, elle est inscrite dans les faits. Vous voyez, il y a des choses, on peut les prévoir à longtemps. Donc ça, c'est un énorme problème pour la paix civile dans notre pays. Et la meilleure manière d'en sortir, ça ne va pas être de compter sur les hommes politiques ou sur les trucs, ça ne marchera jamais. La meilleure manière d'en sortir, c'est de faire ce qui se passe dans le monde entier, que font les évangéliques très bien, c'est-à-dire de prêcher, de parler de Jésus, de montrer que ça tient la route et de montrer que l'islam a beaucoup moins de raisons de croire et que de faire que les gens vont se convertir. Voilà.
Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur. Vous parlez de l'islam à l'instant, et de fait, je crois savoir que assez en avance pour tout ce qui est politique, notamment sur les réseaux sociaux, et pour le projet que vous évoquiez, qui est très centré sur des preuves scientifiques, je sais aussi que c'est... Enfin, vous parlez de rationalité et de gosse, et vous parliez aussi du fait de montrer que la Bible n'était pas contradictoire avec les découvertes de la science. Je crois savoir aussi que les musulmans sont très versés dans ce genre d'apologétique. On parlait des miracles scientifiques du Coran, etc. Comment est-ce que vous faites concrètement pour ne pas donner l'impression aux gens que vous battez sur le même terrain, que vos arguments sont au fond les mêmes, pour vraiment différencier
Ouais. Alors, dans les raisons de croire chrétiennes, il y en aura très très peu qui seront scientifiques. C'est pas du tout sur la science qu'on va... On va pas parler de science, on va parler de miracles, de providence, de coïncidence, de témoignages des saints, de témoignages des martyrs, de raisons de croire rationnelles, mais pas scientifiques. Donc, les miracles scientifiques du Coran, même les musulmans normaux, ils vous disent que c'est n'importe quoi. Je peux vous montrer des vidéos là-dessus. Ça n'existe pas. Même quand ils décrivent que le Big Bang, ils disent Dieu a... il y a des versets qui disent, quand on les traficote, ils disent Dieu a fait grandir l'univers dans l'espace. Alors, c'est pas du tout ça, le Big Bang, c'est l'espace lui-même qui est créé. C'est pas dans un espace préexistant. Bon, voilà. J'ai eu un moment assez amusant, c'est que dans le livre, on a fait quand même 80 conférences et débats, on a fait 20 salons et on a fait aussi 15 actions publicitaires et 400 articles dans la presse et émissions. Et à un moment, on était dans un salon à Nice avec Michel Yves, donc un salon où on signe des dédicaces. Et puis à un moment dans la file, il y a un musulman qui nous dit « J'aurais besoin de vous parler longuement de votre livre parce que c'est vraiment important ». Alors on dit « écoutez, il y a une queue qui est longue, ça ne va pas être facile et tout ». Et le gars, il me dit « Je suis scientifique, j'ai lu votre livre de A à Z, je viens spécialement du Soudan, j'ai pris l'avion rien que pour vous parler parce que je sais, j'ai vu quelque part que vous étiez dans ce salon et tout ». Alors on dit « Bon, ok ». Et alors, il nous dit « Écoutez, votre livre est formidable, j'adore et tout, il y a juste un truc, c'est qu'il n'y a pas Mahomet, et il n'y a pas l'islam, vous ne parlez pas du Coran et tout ça ». Et alors je lui dis « Bah oui, mais c'est parce que nous, on pense que… » Alors d'abord, nous, on est chrétiens, donc on connaît pas… Moi, je connais assez bien, mais ce n'est pas notre culture. Mais surtout, j'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre raison rationnelle de croire en l'islam, alors que sur Jésus, j'en ai trouvé plein. Et donc, je lui ai mis un peu la patate chaude Et il m'a dit, on a parlé un bon moment, puis à un moment, il était un peu déstabilisé, puisqu'effectivement, il voyait pas de raison. Puis à un moment, il est revenu après, il a dit, si, il y a une raison, la raison de croire en l'islam, elle est très très simple, c'est que personne ne peut écrire un verset en arabe aussi beau que n'importe lequel des versets du Coran. Alors j'ai dit, bon, écoutez, je ne suis pas hyper convaincu, donc voilà, c'est... Mais en réalité, je vous assure, il n'y a pas une seule raison de croire à ça. les miracles scientifiques du Coran, je vous montrerai les vidéos de musulmans eux-mêmes qui disent que c'est pas possible qu'on dise des choses comme ça. De toute façon, si le Coran était un livre de science et qu'il annonçait à l'avance la science, ben les musulmans seraient en tête de enfin, ils auraient les prix Nobel, ils auraient une avance technologique. Alors c'est exactement le contraire. Il y a un seul prix Nobel musulman et il a fait ses études en Californie. Donc c'est pas du tout, il y a aucune raison de croire à ça. Voilà.
Enfin, je ne parle pas du tout des scientifiques, mais je crois que c'est quand même des thèses qui sont assez répandues parmi des gens qui sont juste des musulmans un peu lambda et qui devaient...
Je vais vous dire ce qui va se passer sur ce sujet. Nous, d'abord, les musulmans, il faut bien voir une autre chose, c'est que quand vous faites de l'évangélisation de rue, je ne sais pas s'il y en a certains qui en ont fait parmi vous, bon, quand vous faites de l'évangélisation de rue, que vous donnez un tract ou vous adressez à quelqu'un qui passe dans la rue, les seuls qui s'arrêtent, enfin, les trois quarts des gens, les seuls qui vraiment ont un intérêt pour Dieu, ce sont les musulmans. Enfin, dans une très forte proportion en tout cas. Et donc c'est des gens qui n'ont pas perdu, les Gaulois, ils ont perdu le sens de Dieu, ils s'en foutent complètement, ils ont le frigo qui est plein, la télé qui est allumée, les congés payés, tout le reste, Dieu ça les intéresse plus. Mais les musulmans, ils ont le sens de Dieu, donc ça c'est très important. Et donc, ils ont aussi cette dynamique dont je vous parlais, et aujourd'hui, quand j'ai un ami prêtre qui est à Corbeil, il me dit, moi j'ai du mal à remplir mon église, mais dans la rue, il y a 3000 musulmans qui font la prière tous les vendredis. Donc ils ont une dynamique, ils ont une sorte de croissance même de leur pratique religieuse, et donc ils sont assez missionnaires, ils pensent que le sens de l'histoire c'est que tout le monde se convertisse à l'islam. Et donc si nous on arrive en disant il y a mille raisons de croire au christianisme, il n'y a rien qui peut être comparé à ça, ils vont se sentir effectivement provoqués. Ils vont dire mais nous aussi on a plein de raisons de croire. Et là ça va être assez amusant parce que en fait ils vont se rendre compte, c'est une manière de leur faire se rendre compte. Encore une fois, où est la vérité ? Enfin, c'est important la vérité. C'est pas, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, et c'est important de se confronter, d'essayer de voir un peu. Vous voyez, un des plus gros reproches que je fais à l'Église actuellement, la tendance actuelle en Occident en tout cas, c'est la culture du consensus. C'est-à-dire qu'on a l'impression, nous les catholiques, qu'on veut être d'accord avec tout le monde tout le temps, qu'on est d'accord avec les musulmans, avec les athées, avec les, on veut pas de vagues, on veut des trucs. On veut des trucs, tièdes, et on produit un robinet d'eau tiède, et ça intéresse personne, ça n'a aucun pouvoir d'attraction. C'est pas du tout l'attitude qu'avait eu ni Jésus, ni les apôtres, ni les saints, ni les prophètes. Ils étaient signes de contradiction. C'est-à-dire que ça veut dire quoi être signe de contradiction ? Ça veut dire que c'est pas, il faut faire ça avec charité, bien sûr, tout le temps, mais il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'il faut pas transiger sur la vérité. Et donc, il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Il y a des prophètes qui sont des vrais prophètes, et il y a des prophètes qui sont des faux prophètes, vous voyez. Et donc, dans la Bible, ils étaient très sensibles à ça, les gens. Les apôtres, ils étaient très sensibles à ça. Quand il y avait des gens qui étaient des faux prophètes, ils disaient, ça, c'est des faux prophètes. Donc, à un moment, il faut qu'on puisse poser les vraies questions. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tout n'est pas possible, tout est sans contrainte, c'est pas vrai. Et amener ce débat sur la place publique, je pense que ça peut faire un bien fou à tout le monde. Il faut l'amener de manière très paisible, de manière très documentée, de manière très sereine, en disant voilà, nous on a ça, qu'est-ce que vous avez vous? Chacun se fait son opinion, et puis on verra.
Oui. Merci pour votre enthousiasme. Vous parlez assez justement d'évangélisation de rue. De ma très maigre expérience en évangélisation de rue, j'étais au lycée, c'était deux fois pendant les vacances, et j'ai jamais réussi à m'y remettre depuis. Plus encore que maintenant, au lycée, j'avais vraiment cette, un peu de même cette conviction de l'existence de Dieu par le fait que oui, enfin, toutes les preuves, etc., la science ça marche très bien, enfin, tout ce qu'on veut, les concordances, enfin, la non-concordance des évangiles en étant temps concordante, etc., enfin, toutes ces preuves rationnelles qui pour moi étaient vraiment largement suffisantes pour croire, et je me suis retrouvé en évangélisation de rue avec des gens qui étaient oui, peut-être, enfin, qui se fichaient complètement, et que cette apologétique-là, alors sans doute, j'ai vraiment pas du tout votre charisme, votre enthousiasme, peut-être c'est ça qui est le plus communicatif, mais vraiment, c'est un échec complet.
Et là, crois pas ça, parce que je peux te dire un truc, ouais. C'est que sur ces questions-là, tu as beau avoir du charisme et tout ce que tu veux, tu feras jamais changer une personne en 5 minutes sur ces questions-là. Les personnes sont c'est des questions très profondes sur lesquelles tu as orienté toute ta vie, si tu veux. Et tu veux pas. Je vais te donner un exemple. deux exemples. Il y en a un, c'est, il y a une personne qui m'a dit, il a lu le livre, il m'a dit, bon, ok, j'ai bien compris, donc toi tu dis qu'il y a des preuves, alors soit je ne les connais pas, c'est-à-dire que je suis inculte, je ne les comprends pas, ça veut dire que je suis idiot, soit je les refuse, ça veut dire que je suis de mauvaise volonté. C'est bien ça ? Et en fait, j'étais un peu embêté, parce que je me suis dit, finalement, il a raison. et en fait, non, il y a une quatrième position, qui est celle que saint Paul donne quand, par rapport aux Juifs, il dit, il y a un voile. Et je vous donne un exemple, parce que moi, quand je me suis converti, donc j'étais étudiant, et tous mes copains qui n'étaient pas du tout croyants à l'époque, je les embêtais avec les démonstrations de Doja et tout ça. Et bon, alors ça a eu un effet moyen sur les gens, mais ça a provoqué du fruit dans le temps. Mais sur le moment, il y en a un qui était Alain Calmet, maintenant il est patron d'un groupe de camping qui s'appelle Homer. Il était dans une famille extrêmement athée, culturellement absolument athée, et c'était un de mes meilleurs copains. Et quand j'ai commencé à lui raconter ça, il me dit « Écoute, c'est juste pas possible quoi ton truc, voilà. » Et donc je lui en parlais quand même, et au bout d'un moment il me dit « Bon, allez, stop. » Et puis un jour, dans un de ses premiers jobs, il travaille chez Pierre et Vacances, et il prend la bagnole à Biarritz et il roule dans les Landes, et en roulant, il a une expérience mystique de Dieu. Enfin, Dieu lui apparaît, alors il m'appelle tout de suite, il dit ah, j'ai vécu un truc de dingue, je peux te dire que Dieu existe. Ah, il s'est fait baptiser, je suis de son parrain. Bon. Et le gars m'a dit après, il m'a dit, en fait, instantanément, j'ai su que Dieu existait, j'en étais sûr, avec cette expérience, mais il me dit, tu peux pas imaginer comment il faut que je reconstruise tout dans ma tête. Il faut que je refasse ma vision du monde. C'est-à-dire qu'il faut que il va me falloir des années pour remettre mon logiciel dans le bon sens par rapport à ce que j'ai vécu. Et en fait, on voit ça quand tu vois toutes les conversions de musulmans, il y en a beaucoup hein, dans le monde, énormément, mais en France aussi. Et les gens nous disent, ben, on était dans un certain truc, c'était comme ça, et on ne voyait pas. Et le changement, souvent, c'est par des songes, par des grâces mystiques, par des rêves et tout ça, que les musulmans, parce qu'il leur faut la dose pour changer le truc. Mais voilà, donc ne crois pas que personne arrive en évangélisation de rue et puis parce qu'il va dire trois mots à un gars parce qu'il a beaucoup de charisme, le gars tout d'un coup, ah ça y est, je suis croyant, ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tu déposes souvent les gens ont des blocages. Moi j'étais persuadé par exemple que Darwin avait mis fin à la Bible, parce que la Bible était un truc fini depuis qu'on savait que Darwin. Voilà. Eh bien, quand tu as des blocages comme ça, si jamais dans une discussion tu débloques le truc ou si tu poses une pierre dans... Tu vois, les musulmans, j'aime bien leur dire un truc. Moi, en général, je leur dis, écoutez, croyez ce que vous voulez, mais moi, il y a un truc qui me heurte, c'est que vous pensiez que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Parce que, en fait, il y a toutes les preuves, enfin, toutes les raisons de croire qu'il est vraiment mort sur la croix et qu'il a été ressuscité, qu'il a changé le destin des apôtres et qu'il apparaît ensuite à plein de monde partout. Et vous... Vous pensez que 7 siècles après, Dieu dit « Ah ben non, en fait, j'avais mis sur la croix un sosie. J'avais mis un gars pour que les gens croient que c'était vraiment Jésus. » Et en fait, Jésus n'était pas sur la croix, il était en train de prendre un café dans un coin. Et à un moment, le gars qui est mort sur la croix, ce n'est pas lui, il y a un autre qui est arrivé. C'est ce que croient les musulmans. Alors je dis « Mais écoutez, c'est complètement fou, parce que ce que vous êtes en train de me raconter, c'est que Dieu lui-même a trompé les gens, a voulu les tromper. » Et il y a des gens qui sont morts en croyant de bonne foi que c'était Jésus qui était mort et ressuscité. Voilà, il y a eu des morts, pas seulement sur le moment, dans les siècles qui ont suivi, tout le monde. Il y a eu des gens qui sont morts. Moi, un dieu comme ça, ça me paraît extrêmement bizarre. Et après, j'embarque sur l'insol de Turin, sur un certain nombre de trucs. Et en fait, les musulmans sont assez sensibles. C'est un terrain où ils sont... Voilà, une fois que tu as posé ce truc-là, souvent, les musulmans, il faut leur dire, bah, écoutez... Vous croyez ce que vous croyez, mais ce que je vous engage à faire, c'est à faire une prière à Dieu en lui disant « Si tu existes, enfin, si tu veux bien, manifeste-toi à moi et dis-moi la vérité. Voilà. » S'ils font cette prière-là, en général, Dieu les exauce. Et il y a un nombre de grâces mystiques qui sont données aux musulmans qui est invraisemblable. De quoi être jaloux.
Une dernière question.
Voilà.
Moi, j'ai une question, c'est sur, en fait, je suis sûr d'avoir bien compris le rapport entre ce que vous prouvez dans le livre et la foi. Est-ce que c'est un préalable nécessaire ou, comme vous pouvez le raconter, au contraire, Dieu peut passer outre, enfin, un peu le rapport voilà. Entre les deux.
Alors, un jour, on a demandé au cardinal Ratzinger combien il y avait de chemin vers Dieu. Il a répondu, autant que d'être humain. J'aime beaucoup cette manière de voir. Parce qu'il y a des... les chemins vers Dieu sont très variés. Il y a un gars, il va voir un coucher de soleil, il dit Dieu existe. Un autre, il voit Mère Teresa, Dieu existe. Il y a un autre qui va à Lourdes. Enfin, il y a tous les chemins. Et puis, ce n'est pas un truc en général, c'est une accumulation de choses. Donc, en fait, il n'y a pas de chemin obligatoire. Mais c'est vrai que en théologie, on dit voilà, il y a des choses qui sont normalement du domaine de la accessible à la raison. Et il n'y a pas besoin de révélation. Et donc, ça, c'est tout ce qui concerne la connaissance de l'existence de Dieu, par exemple. Le Père disait l'essence et l'existence. Quand on ne peut rien dire par la raison à partir du monde, on ne peut rien dire de l'essence de Dieu. On peut dire très peu de choses, on va dire. Mais on peut dire, par contre, la nécessité de son existence. Il faut bien qu'il y ait une cause. Si on extrapole un tout petit peu Saint Thomas, il dit que Dieu est la grande cause qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire il est à l'origine de l'existence même des choses. S'il ne soutenait pas les choses en existence, elles n'existeraient pas. Il est aussi à l'origine des réglages, des régularités de l'univers, c'est-à-dire des lois. Si les lois naturelles s'appliquent partout et toujours, c'est qu'il y a bien un législateur derrière, il y a une cause. Il est à l'origine du début, alors ça c'est une autre manière de voir, c'est dans le temps. Il est à l'origine du fait qu'il y a un commencement à l'univers. Il est à l'origine du fait qu'il y a un réglage dans l'univers. Il est aussi à l'origine du fait qu'il y a des miracles, des apparitions, des révélations, des prophéties, tout ça, sinon il n'y en aurait pas. Il est à l'origine du bien et du mal. Il est même à l'origine de la beauté, de la sagesse. Donc, Dieu est la grande cause qui est à l'origine de tout. Donc ça, c'est des raisonnements qu'on peut faire de manière rationnelle. Ceci dit, ce n'est pas obligatoire. Tu peux zapper, passer par un... Voilà, il y a les trucs théoriques, et puis après, en pratique... c'est pas nécessaire forcément de passer par des raisonnements philosophiques avant de rencontrer un témoin de Dieu qui te convainc.
Je pense que Newman a un peu réfléchi à ça dans la grammaire de l'assentiment, c'est-à-dire que c'est la foi, alors pas uniquement de dire Dieu existe, mais je dirais même la foi presque théologale, en fait, par l'adhésion, celle qui a un don de Dieu en même temps qu'un labeur de l'homme. Du côté humain, en tout cas, bon, Dieu il fait ce qu'il veut, mais d'autre côté à nous, c'est, comme Olivier le disait, il y a une multitude de facteurs, il y a des champs de force, et puis les choses se mettent peu à peu en place, et il y a un moment donné, une décision va donner presque une configuration définitive à ces champs de force. Alors ce qui est très subtil, c'est de voir l'équilibre entre raison et volonté, parce que si la volonté ne fait qu'entériner quelque chose de purement rationnel, on peut peut-être dire, au plan philosophique, en Dieu, mais certainement pas au plan théologal. Mais si la volonté ne s'appuie sur absolument rien de rationnel, on tombe dans le fidéisme. Alors c'est un peu là que la grâce se situe, c'est-à-dire qu'à nos propres yeux, on peut dire finalement tout était prévu pour que je croie. Enfin, voilà, quand je me retourne, je me dis mais en fait j'ai pris plein de chemins, mais finalement il fallait que j'arrive à cet endroit-là. Et c'est normal, quoi. Mais une autre personne, ça sera tout à fait différent, et même dans les mêmes circonstances, ça aurait été peut-être tout à fait autre chose, parce qu'elle aurait réagi différemment, elle aurait fait les mêmes expériences, mais elle aurait donné d'autres interprétations. Donc Newman, il essaie un petit peu de réfléchir à ça, en fait. Hein. Donc il dit la grammaire de l'assentiment, c'est essayer de trouver, mais ce qui est très difficile, hein, comment cette espèce de concordance de la volonté avec la raison, et en même temps de transcendance de la volonté sur la raison ou les raisons.
C'est absolument vrai. Il y a deux choses, je voudrais rebondir deux choses là-dessus. D'abord, effectivement, il faut bien distinguer la foi et la connaissance. Hein. Savoir que Jésus existe, ce n'est pas avoir foi en Jésus. C'est, bien sûr, c'est un préalable. C'est-à-dire que quand Jésus est sur les routes d'Estine et personne ne doute qu'il est là, quand on le voit, il est là, il existe. Quand il est ressuscité, il donne bien des preuves pendant 40 jours qu'il est ressuscité et ensuite il demande la foi. Quand Thomas... n'est pas là le premier dimanche, là, et il dit, moi je ne croirais pas, si je ne mets pas ma main dans les clous et tout ça, Jésus, 8 jours après, il dit, Thomas, viens voir, mets ta main là, mets ton truc, il lui donne une preuve en béton armé de sa résurrection. Et il lui dit, ne sois plus incrédule, maintenant sois croyant. C'est étonnant, parce qu'on pourrait dire, ben non, il n'a plus besoin de croire puisqu'il l'a vu. Non, il lui dit, ne sois plus incrédule, sois croyant. Ça veut dire qu'en fait, il s'adresse à lui en lui disant, je te demande d'adhérer, d'avoir confiance en moi et d'adhérer à moi, pour le reste de ta vie, dans une démarche de fidélité, donc de foi. Donc ça engage la volonté libre et la liberté. Et les démons, ils savent que Dieu existe, mais ils brûlent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la foi, au sens où... Donc il faut bien distinguer la foi et la connaissance. Hein, si on a foi entre... Quand on a foi en Dieu, en Jésus, en son ami ou en son épouse ou n'importe quoi, c'est pas qu'on sait qu'ils existent, c'est qu'on non seulement on sait qu'ils existent, bien sûr, c'est un préalable, mais on a aussi de bonnes raisons de penser qu'on peut leur faire confiance. Et là, on prend une décision qui dépasse le truc. Et ça, moi, je l'ai un peu vécu. C'est-à-dire, quand j'étais en train de faire ma démarche rationnelle et qu'à la fin, j'avais plus d'arguments, j'étais sûr que c'était vrai sur le plan de la rationalité, en fait, j'avais pas du tout la foi. Parce que ça m'impliquait pas. C'était juste et pour passer à la foi, s'il y a des gens qui se font bouffer par les lions dans les arènes, c'est pas qu'ils ont fait un raisonnement rationnel, c'est qu'à un moment ils ont vécu un truc. Il y a un moment il faut faire l'expérience de la. Il y a une parole que j'adore de Jésus quand il dit si vous m'aimez, vous respecterez mes commandements, et mon Père m'aimera, et nous viendrons, et je me manifesterai à vous. Voilà. Et je me manifeste à vous, ça veut dire qu'il intervient dans nos vies, il répond à nos prières, il y a des choses providentielles dans notre vie. Et là, quand on vit des trucs comme ça, la relation n'est plus du tout la même. Et là, on a une foi qui est bien plus forte. C'est pas une foi seulement rationnelle, on est passé à autre chose, quoi. C'est extrêmement important de distinguer. Donc effectivement, il y a un aspect grâce, décision, c'est un peu obscur, mais en tout cas, c'est plus que la rationalité.
C'est super bien, tout petit trop tard. Il faut qu'on nous les compile. Ah, vas-y.
On avait une question ici. J'avais plusieurs de personnes. Comment éviter que les gens, en général, quand on arrive sur le terrain intellectuel, les gens ont immédiatement un blocage de, en fait, si tu me parles de ça, c'est juste. Parce que tu as envie de te prouver que tu as raison. Comment éviter ce blocage et faire comprendre que ce n'est pas une volonté de domination de l'autre, comme la même sur la domination intellectuelle, donc quand même relativement abstraite, mais que y a un mouvement autre derrière.
Oui, alors je sais, j'ai pas de recette sur ça. Je pense que dans tous les cas, il faut être assez vrai et dire que. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est j'aime bien souvent dire aux musulmans, aux autres, que si jamais ils me convainquent que c'est vrai, que l'islam est la vérité, j'adhérerai à ça sans problème. Parce qu'en fait, on est au service que de la vérité. Enfin, on n'est pas là pour se raconter des histoires. Et si jamais, comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, on est les plus malheureux de tous les hommes. Donc ça ne sert à rien de rester dans ce malheur. Si ce n'est pas vrai, il vaut mieux que nous aussi, on quitte cette religion. Et donc. Il faut juste dire qu'on n'a aucun intérêt matériel, comme les apôtres n'avaient aucun intérêt matériel à aller se faire tuer à l'autre bout du monde en quittant leurs femmes, leurs enfants, leurs amis et partir pour se faire, pour un truc qui serait faux. Si c'était faux, en fait, on n'a pas de raison, nous, d'adhérer à un truc qui est faux, qui ne rapporte souvent que des ennuis sur la terre, quand même. Bon, donc. Après, je sais pas, il faut argumenter de manière chacun comme en fonction de ça. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que quand je me suis posé les questions, je voulais tout sauf me raconter des histoires. Et j'avais aucun intérêt à se faire plaisir en croyant des trucs faux, ça n'a pas de sens. Quoi.
C'est l'heure de dire les complis, merci.
Donc, si certains d'entre vous ont envie de participer ou d'en savoir plus sur le projet des 1000 raisons de croire, vous m'écrivez à olivier.bonassi@gmail.com. C'est facile. Il y a juste un point entre le prénom et le nom et @gmail.com.
Merci Olivier, on a l'habitude de t'aider.
Bien sûr. J'ai pas l'habitude de t'aider.